Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de voir autant de monde puisqu'on a déplacé la leçon. Alors, je vois Shannon, bonjour Shannon Dunn, Curtis, bonjour Lynn avec un magnifique fond bien meilleur que le mien. Bonjour, ah, Jim, bonjour Jim, dans la cuisine au confortable avec une jolie vue sur le jardin. Bonjour Lynn, j'espère que tout va bien à Nice pour toi. Bonjour Barbara, bonjour Jody, bonjour Jack, bonjour Lothar, bonjour Kelly, bonjour Beth et bonjour Lilia. Bonjour à tous, alors j'espère que ça va bien pour vous. Hop, voilà. Bonjour, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont rejoint le 30-day challenge? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est juste une question par curiosité pour savoir qui est-ce que je vais voir dedans. Alors. Oui, pour Kelly, super. Il est possible que j'ai déjà répondu à certains d'entre vous, mais. Ça va un petit peu vite en ce moment. Lynn, oui, je me souviens, j'ai vu ton nom, Lynn. Jody, super. Janet, oui, Janet aussi, je t'ai répondu. Super, eh ben, ça me fait plaisir. On est en train de vous préparer un truc assez chouette. Donc, sur la visite de la France, j'ai commencé à tourner les vidéos ce matin sur la Bourgogne. Et c'est vraiment cool. Lothar dit, je m'ai inscrit. On dit, je me suis inscrit. Super. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Alors, aujourd'hui, j'avais préparé quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, il y avait une vidéo à regarder. Mais d'abord, on va faire comme d'habitude. On va récapituler. Hop, voilà. On va parler de ce qu'on a vu la dernière fois. Et Lynn vient d'arriver. Bonjour Lynn. Alors, le lien vers le document du jour, pour ceux qui veulent le voir. Hop, ici. Alors, qu'est-ce que tu as appris la dernière fois? La dernière fois, on a parlé des approximations. Donc, on avait parlé de. Il y avait à la louche, il y avait des approximations de nombres, comme la quinzaine, il y avait des approximations. De temps, je crois. Qu'est-ce qu'on avait vu? Voilà, Lynn me dit au pif, tout à fait. Donc, au pif, c'est au hasard. Au hasard. Ah, Curtis, super, ça va me faire plaisir de te voir dans le 30-day challenge. Donc, au pif, c'est au hasard. Ça peut être aussi avec le pif qui veut dire le nez, d'accord? Le pif égale le nez en argot. Vers. Donc, vers, c'est around et à peu près. C'est aussi une approximation pour dire around. Mais vers, c'est plutôt, en général, on l'utilise pour un lieu, mais ça peut être d'autres choses. À peu près. À la louche. Oui, tout à fait. Donc, à la louche, ça va nous donner une approximation de nombre en général. Aux alentours. On va dire aux alentours de. Jim dit aux alentours. C'est très bien. Donc, je rajoute aux alentours de, comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Ah, Jody dit pour la première fois, j'ai lu dans Duolingo aux alentours de. Oui, alors je vais faire un petit arrêt sur ce sujet. Donc en fait, c'est très intéressant parce que quand vous allez apprendre du nouveau vocabulaire, vous allez le voir partout. Donc par exemple, des expressions comme à la louche ou au pif, qui sont des expressions familières, sans être grossières, sans être vulgaires, c'est des choses que vous allez réaliser. Comprendre quand vous allez regarder Lupin, par exemple. Je sais que j'y pense parce qu'il y a la dernière saison qui vient de sortir sur Netflix. Si vous regardez un film, vous écoutez un podcast, l'expression, vous l'avez déjà entendue, mais vous n'avez pas compris. Et donc, ça vous permet de réaliser qu'en fait, c'est partout. Kif-kif, donc, alors, kif-kif, c'est identique. Kif-kif, c'est identique et des poussières. Très bien. Très bien, je vois que vous avez pris des notes. C'est très bien. Donc, on avait vu ça la dernière fois. Et des bananes, dit Marie Kelly. Oui, tout à fait. Donc, et des bananes et des poussières, c'est la même chose. Ça veut dire and a little bit more. D'accord? On va aller revoir dans les devoirs parce que Il y avait des devoirs et je sais que certains l'ont soumis et en ont soumis et c'est très bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'était de travailler sur la vidéo sur l'accent suisse. C'est de David Castello-Lopez. Et est-ce que vous l'avez vu déjà? Est-ce que vous avez pu la regarder? Et surtout, j'aimerais vos retours. Est-ce que vous avez compris, rien compris? Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont surpris? Moi, j'ai pris plein de notes. Mais avant de vous donner mes notes, je voulais avoir votre ressenti sur la vidéo et avoir vos questions. Attendez, j'ai un petit message de mon conjoint pour ce soir. Ok, c'est tout, tout va bien. Alors, donc, est-ce que vous avez regardé la vidéo? Est-ce que vous avez regardé la vidéo sur l'accent suisse? Je vais vous remettre la vidéo pour certains. Copier le lien. Voilà. C'est la vidéo. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont regardée parce que je sais que quelqu'un a soumis un devoir. Jody, je sais que Jody l'a vu. Voilà, Jody est là. Jody l'a vu. Je sais que Jody l'a vu. Lynn, Kelly... Et Lynn l'avait vu la semaine précédente, oui, parce que j'en avais déjà parlé. Jack aussi, très bien. Alors, quel est votre... Est-ce que vous avez pris des notes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des notions qui vous ont surpris? Moi, j'ai pris pas mal de notes sur le vocabulaire, parce que c'est mon travail. Mais je voulais avoir votre ressenti de la compréhension sans aide. Ah, c'est intéressant. Donc, Curtis me dit « Oui, c'était drôle. » Et il a parlé un peu plus lentement. Kelly dit « Oui, j'aime qu'il parle moins vite. » Tout à fait, très bien. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez notés? Est-ce qu'il y a des idées qui sont dans le... Alors, Shannon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a surpris? Des choses sur lesquelles tu as des questions. Je vais déjà... Hop. Je vais sortir mes notes, je les mets sur mon écran et comme ça, on va en parler. Ah, très bien. les premières suggestions, c'est Jody et Jack. Et en fait, c'est une des premières choses que j'ai écrites dans mes notes. Le mot chelou, très bien. Alors, chelou. Il l'utilise énormément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jack dit, est-ce que c'est weird? Tout à fait. Donc, en anglais, on peut dire que c'est weird. Mais en fait, c'est quoi ce mot? Il y a quelque chose dans ce mot qui est particulier. Oui, Jim a trouvé. C'est le mot chelou et verlan pour louche. Voilà, c'est ça l'essence de ce mot. Donc, en fait, c'est du verlan. Du verlan. Donc, le verlan, ça vient de à l'envers. D'accord ? À l'envers, c'est upside down ou backwards. D'accord ? Backwards or upside down. Ça dépend du sens dans lequel on va le prendre. Mais à l'envers, ça veut dire, c'est comme ça. D'accord ? C'est retourné. Donc, en fait, le verlan, ça prend des mots et ça inverse les syllabes ou les lettres. Donc, par exemple, vous connaissez c'est fou. It's crazy. Unbelievable, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est cette idée de it's crazy. Et en fait, on va dire c'est ouf. D'accord ? Mais attention, ça, c'est vraiment le genre de choses que je ne vous conseille pas d'utiliser parce que c'est un petit peu bizarre. D'accord ? C'est vraiment plus, on va dire, pour des gens qui ont jusqu'à 25 ans. D'accord ? Même moi, je l'utilise peu. Parce que ça fait vraiment plus jeune. Sinon, ça peut être utilisé dans un contexte où on sait que volontairement, on utilise des mots un peu jeunes, d'accord ? Et là, typiquement, exactement dans cette vidéo, il utilise « chelou », même si il est plus âgé, pour montrer qu'il utilise un mot un peu jeune, d'accord ? Donc, c'est fait exprès. Par exemple, ne dites pas à la boulangère de votre quartier c'est ouf, c'est ouf, il n'y a plus de baguettes, d'accord ? C'est complètement, ça ne marche pas. Ce n'est pas vulgaire ou méchant, c'est juste que c'est hors de contexte et c'est étrange, d'accord ? Donc, par exemple, vous pouvez dire c'est fou, je ne m'attendais pas à ce que la tour Eiffel soit si grande. D'accord? Donc, vous pouvez dire ça, c'est fou, je ne m'attendais pas à ce que la tour Eiffel soit si grande. Évidemment, pour ceux qui connaissent comme une Française depuis longtemps, vous savez que on enlève le ne, d'accord? On va dire je m'attendais pas à ce que la tour Eiffel soit si grande. Mais si vous dites c'est ouf, c'est un petit peu bizarre, d'accord? Donc voilà, ça c'est le verlan. Donc on va intervertir des syllabes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein du verlan. Donc là, celle qu'on connaît bien, donc pour certains, c'est laisse tomber, laisse béton. Ça, c'est une chanson du chanteur Renaud. Donc voilà, typiquement, laisse tomber, c'est just give up on this, don't bother. Et laisse béton, c'est laisse tomber à l'envers. Donc ça, c'est du verlan. Mais à nouveau, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre de choses. C'est un argot des années 80 dont il faut comprendre le contexte. D'accord? Donc chelou, c'est weird et c'est du verlan pour louche. C'est louche. Louche, ça veut dire suspicious plutôt. C'est chelou, weird. En fait, les deux veulent dire suspicious weird. Je vais l'enlever, sinon vous allez vous embrouiller. D'accord? Weird. Donc ça, chelou. C'est marrant parce que c'est une des premières choses que j'ai notées dans mes notes pour vous. Shannon parle de l'or des nazis. Alors oui, en fait, dans l'introduction, il parle des clichés autour des Suisses. Donc, il dit, je suis suisse, mais quelle heure est-il? Bleh. Quelle heure est-il? D'accord? Et ça fait partie du cliché des les montres. D'accord? Donc, parce que les Suisses font des très bonnes montres, c'est la réputation. Il dit, c'est propre ici. Donc c'est la propreté, ça c'est très facile. Et l'or des nazis. Donc en fait, quand il fait la liste des caractéristiques et des clichés de la Suisse, il parle de l'or des nazis, so nazis, gold. Donc c'est l'argent, tout l'argent qui a été caché pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis en Suisse. Et en fait, ce à quoi il fait référence, c'est le secret bancaire. Les banques suisses. D'accord? Il ne se détaille pas là-dessus, mais c'est ce dont il parle, que tout n'est pas complètement rose. Il y a un autre truc dont il parle, c'est être poli. Donc la politesse, c'est un mot, enfin, vous avez quelque chose de très similaire en anglais. Être poli, la politeness, c'est à nouveau un cliché. Ah! Avoir les moyens. Donc, il dit, je suis suisse et j'ai les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les moyens? Tout seul, comme ça, avoir les moyens. Marie, Kelly, j'ai vu ta question, je vais y répondre juste après. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les moyens? Oui. C'est être riche, avoir. Lynn propose, j'ai plein d'argent, je suis riche. C'est ça. En fait, on pourrait dire j'ai les moyens de payer, d'accord? Mais en fait, on dit avoir les moyens, c'est être riche ou avoir assez d'argent pour faire quelque chose. Pour acheter quelque chose. Par exemple, on peut dire j'ai les moyens pour partir en Espagne cet été. Cet été. D'accord. I have enough money to go to Spain this summer. Et en général, si on l'utilise tout seul, c'est ça. Marie Kelly demande, c'est quoi, que veut dire c'est de la dynamique? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est en fait, c'est une publicité qui date des années 80-90. D'accord? C'est de la dynamique. En fait, il se trouve qu'il parle d'une barre de céréales. Donc, quand dans la vidéo, il va voir un acteur qui jouait le rôle d'un Suisse dans une publicité des années 80 pour une barre de céréales qui s'appelle Ovomaltine. Et c'est comme ça que pour beaucoup de Français sonne l'accent suisse, comme le monsieur de Ovomaltine. Alors que comme on le voit, l'acteur est francophone, enfin il est français, il n'est pas suisse. Et il a repris les clichés de l'accent suisse pour faire sa publicité. Donc en fait, c'est bizarre. Moi, je croyais que c'était de la dynamite. Et il dit c'est de la dynamique. Alors, je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait, la dynamite, c'est dynamite, comme vous avez en anglais. Et là, il dit c'est de la dynamique. Donc, je ne sais pas. Dynamique, c'est comme en anglais, dynamic, c'est exactement le même sens, mais c'est une publicité. Donc, des fois, les publicités, ça ne veut rien dire. Alors, parler français chelou. Donc, ça, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose, une structure qu'il utilise pour dire, par exemple, il dit genre. Marie Kelly, dynamite in English can mean fantastic. En fait, oui, on peut aussi le dire comme ça. On peut dire, par exemple, comme une Française, c'est de la dynamite. D'accord? On peut le dire pour dire « It's really great, it's fantastic, it's amazing, it's unbelievable, blah, blah, blah. » Absolutely. So, I wanted to show you that it's exactly the same meaning. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que la phrase, c'est de la dynamique au lieu de la dynamite. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Et comme c'est à écrit dans les années 80, j'étais née, mais je n'étais pas encore assez grande pour me poser la question. Donc, c'est une publicité et c'est un slogan. On appelle ça un slogan. Un slogan. Donc, une publicité, c'est un ad. Et on dit une pub ou une publicité. D'accord? C'est un ad. Il y a quelque chose qui est important pour votre français, c'est son utilisation de genre. Donc, genre, ça peut être gender, par exemple. Je suis de genre féminin. D'accord? Voilà. Ça, c'est facile, c'est la même chose en anglais. Mais on peut l'utiliser pour dire par exemple. Et c'est ce qu'il utilise quand il dit un truc du genre, il y a des francophones... qui parle bizarrement, genre les Belges, je ne les comprends pas. Là, ce n'est pas une citation de la vidéo, mais c'est pour vous donner un exemple. Il y a des francophones qui parlent bizarrement, genre les Belges, je ne les comprends pas. Le genre ici, ce n'est pas une histoire de gender. C'est par exemple. Et c'est un usage. Alors, Lynn demande, est-ce que c'est en France ou en Suisse? Ce n'est pas une question de France ou en Suisse, c'est une question de français parlé. À mon avis, c'est aussi utilisé en Suisse. Je sais que c'est utilisé en France, mais c'est une idée de français parlé familier de tous les jours. D'accord? Donc, c'est une façon de dire par exemple. Il y a des francophones qui parlent bizarrement, genre les Belges, je ne les comprends pas. Il y a plein d'exemples, en fait. Il suffit de se remplacer, par exemple. Et ça... Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux vous conseiller de l'utiliser? Ça, c'est pas comme le verlan pour moi. C'est ça, vous pouvez essayer de l'utiliser et de voir. Et surtout, 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 quand vous allez écouter des choses en français parlé, je parle pas de lecture, hein, je parle pas comme il y a quelqu'un qui a une question sur le Petit Prince qui est lu. Je parle pas du français écrit lu. Je parle de quelque chose de spontané. Si vous écoutez des francophones parler spontanément, c'est le genre de choses, voilà, le genre de choses, the type of things, qui peut être dedans. Shannon dit, on le dit souvent au Canada. Ah, d'accord. Eh ben voilà. Il y a des choses qui sont des deux côtés de l'océan Atlantique, mais pas tout pour le Canada. Il y a des francophones qui parlent bizarrement, genre les Belges. Je ne les comprends pas. Par exemple, les Belges. Je ne les comprends pas. Voilà, cette idée de genre égale par exemple. Ensuite, pour dire, j'écris, quand on dit the 80s, ça c'est une erreur que je vois souvent, donc je voulais vous en parler, on dit les années 80, d'accord? Il y a pas, on ne dit pas les 80, ça marche pas, on dit les années 80. Si vous voulez dire the 90s, on dit les années 90. Si vous voulez dire de 70s, on dit les années 70. D'accord? Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'équivalent les 80, les 70. D'accord? Ça se décline pour tous les chiffres ronds. Il n'y a que les récents comme the 2000s, je ne sais pas si on dit ça. En 2010-2020, on va dire les années 2010 ou les années 2000. D'accord? Alors, les années 80, on en a parlé. Ensuite, pour la pub, on en a parlé. Il y a aussi un mot qu'il utilise qui m'intéresse aussi parce que celui-là, vous pouvez vraiment l'utiliser, c'est rigoler, c'est rire. Là, par exemple, ça m'a fait beaucoup rire. Quand tu es tombé de vélo dans l'étang. D'accord? L'étang, c'est the pond, the little lake, l'étang. On peut dire, ça m'a fait beaucoup rigoler quand tu es tombé de vélo dans l'étang. Et là, il faut mettre un CCD. C'est juste qu'on a la mauvaise habitude d'écrire les majuscules sans cédille et sans accent. Mais quand je vous enseigne le français, j'essaie de faire attention à bien, bien mettre les accents et les cédilles sur les lettres majuscules. Ah oui, il y a aussi une forme que j'aime beaucoup qui dit, c'est il sait super bien faire. Je vais vous le noter là, parce que j'ai noté ça. Ça vous permet d'avoir un français qui est plus spontané. Et souvent, je vous le dis pour beaucoup d'entre vous qui avez un bon niveau en français, ça manque juste d'un peu de spontanéité qui est très difficile à apprendre. C'est pour ça que je vous l'apprends. Alors, quand on dit par exemple, on va monter en enthousiasme. Par exemple, Valérie. C'est faire les crêpes. D'accord? Valérie knows how to cook crepes. Valérie sait faire les crêpes. On peut dire Valérie sait bien faire les crêpes. Valérie knows how to make the crepes, but with a little bit more enthusiasm. Valérie sait faire les crêpes. Valérie sait bien faire les crêpes. On peut dire Valérie sait très bien faire les crêpes. Et si on veut être un peu familier, sans être vulgaire, juste enthousiaste, on va dire Valérie sait super bien faire les crêpes. Et c'est ce qu'il utilise en fait. Il dit il sait super bien faire la pub Ovomaltine. Et là, on met ce super bien au milieu pour augmenter l'intensité de l'enthousiasme. Valérie sait super bien faire les crêpes. Et ça rend votre montrer cet enthousiasme, ça fait vraiment la différence quand vous parlez. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà dans mon premier cours que j'ai fait qui s'appelle French Vocabulary and Pronunciation. J'ai un cours sur le oui et le non et comment aller au-delà de ça. Parce que si vous dites uniquement Valérie fait très bien les crêpes, c'est super. Enfin, au niveau de la grammaire, c'est bien. Mais ça manque de couleur, en fait. Mais si vous dites Valérie, c'est super bien faire les crêpes, là, on dirait que c'est un francophone qui l'a dit. Et il y a un côté enfantin et admiratif, d'accord? Valérie sait super bien faire les crêpes. Il utilise genre encore. Genre, ils sont vachement moins riches. Donc, ce genre aussi, je voulais vous le montrer. Donc, c'est encore un par exemple. Par exemple, ils sont vachement moins riches. Pour ceux qui ne connaissent pas vachement, ça veut dire beaucoup en français familier. Ça, c'est quand il parle des Belges. Les Belges sont vachement moins riches. Donc là, en fait, genre, ils sont vachement moins riches. C'est par exemple, ils sont vraiment moins riches. Il y fait la différence entre les Suisses et les Belges. OK. Voilà, c'est. Je n'ai pas encore parlé de toutes mes notes, mais je veux d'autres questions sur la vidéo pour qu'on puisse aller ensemble et que je juste que. J'ai encore un petit truc dont je voulais vous parler dans la vidéo sur la prononciation, justement. Mais je voulais voir si vous aviez des questions, vous aviez remarqué des choses dont je n'ai pas parlé. Il y a un gros orage qui se prépare. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans la vidéo ou vous aviez des questions? Il y en a forcément parce qu'à la fin, ça devient plus technique. Alors, vous pouvez me le dire dans le chat, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues? Il y a encore un truc sur chelou dont je voulais vous parler. Je note. Alors. Ah! Jim attaque avec les choses sérieuses. Jody aussi. Voilà, c'est ça, je voulais vous en parler à la fin parce que c'est technique, mais c'est intéressant pour vous, surtout pour comprendre les différences. Je laisse encore quelques instants pour ceux qui ont des questions sur la vidéo pour qu'on puisse en parler. Et après, on va voir ensemble. Ok. Alors, donc on va en fait ce dont parlent Jody et Jim, c'est effectivement la fin de la vidéo où ils parlent des différences. Il y a un truc dont je voulais sur lequel je voulais revenir par rapport à Chelou et qui est très intéressant avec David Castello-Lopez, que en fait je suis depuis. Je ne sais pas, peut-être 15 ans, ça fait peut-être 15 ans que j'aime son travail, et ce qu'il travaillait sur Canal+, qui est la chaîne numéro 4, et qu'il faisait déjà ce genre de choses pour d'autres émissions, toujours avec beaucoup de factuels, de faits, et des choses très drôles, avec une alternance entre du visuel, et des choses drôles. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec lui et qui est très intéressant pour vous quand vous apprenez le français et pour moi pour vous l'enseigner, c'est qu'il va mettre des choses du français très pur, très formel, très élégant, à côté de choses extrêmement familières. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant ce qu'il fait. C'est que il est toujours surprenant dans ce qu'il écrit et ce qu'il dit. Donc, par exemple, il dit là une prononciation de type chelou. C'est rigolo parce qu'en fait, quand il va dire une prononciation de type, on imagine qu'il va donner un fait scientifique. Par exemple, on peut dire un insecte de type, qu'est-ce qu'on va mettre? Coccinelle. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des animaux, mais on peut dire un insecte de type coccinelle ou on peut dire coléoptère. Je vais vous mettre un vrai terme. Coléoptère. Coléoptère, pour moi, c'est un animal qui vole. De type coléoptère. Et en fait, au lieu de donner un élément scientifique, là, je vous mets ça entre crochets parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Un insecte de type fourmi, peu importe. Mais on s'attend à quelque chose de formel et de factuel et de scientifique. Et il dit une prononciation de type chelou. Et donc, c'est du français très familier qui est juxtaposé, qui est mis à côté de. Donc, juxtaposer, c'est mettre à côté de. Juxtaposer, c'est mettre à côté de. Voilà, c'est un terme élégant, très formel. Donc, il met des choses très élégantes avec des choses très familières et donc c'est rigolo. Donc là, on allait attaquer la fin de la vidéo où il parle des spécificités du français parlé en Suisse. Alors, je vais copier-coller mes notes, hein. Hop. Donc, quelles sont les différences? Donc, il y a trois différences. La chose la plus, on peut dire, cliché, même si elle est vraie, c'est que les Suisses parlent lentement. Et ça, pour les Français, c'est une source de blague parce qu'on dit que les Suisses sont assez lents. Donc, les Suisses parlent lentement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la blague, c'est qu'on dit que les Suisses sont lents en général, même si c'est un cliché, c'est faux. On dit souvent, il n'y a pas le feu au lac. D'accord? So, the lake is not on fire. Et ça a fait référence au lac Léman, qui est le lac de Genève, le lac à côté de Genève. Et donc ça, c'est une expression, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais elle est très populaire pour dire que les Suisses, ne sont pas pressés, ils sont lents, ils ne sont pas rapides. Évidemment, ici, je le répète, je parle de clichés qui sont faux. D'accord? Quand on dit que les Suisses parlent lentement, là, ça a été prouvé dans la vidéo, c'est juste un accent. Mais quand je dis que les Suisses sont plus lents, c'est faux, d'accord? C'est pas vrai, c'est un cliché, c'est une vision. Et donc, on a cette expression, il n'y a pas le feu au lac. There is no hurry, everything's fine, you don't have to rush. Il n'y a pas le feu au lac. Ensuite, ce dont Jody et Jim parlent, c'est des différences de prononciation. Donc déjà, il y a des prononciations qui sont différentes. Et ça, c'est des choses dont je ne veux pas parler ici parce que ça ne concerne que certains pays qui ne sont pas la France et aussi certaines petites régions. Et aussi, c'est tellement difficile à entendre la différence que franchement, ce n'est pas grave si vous ne le comprenez pas ou que vous ne l'entendez pas. Et moi, je ne fais pas du tout la différence, d'accord? Et enfin, ce dont parlaient Jody et Jim, c'est la proéminence pénultième. Ça, franchement, vous pouvez l'oublier. L'idée, c'est qu'il y a une accentuation sur l'avant-dernière syllabe. Donc, si on prend ici la phrase « il n'y a pas le feu au lac », moi, en tant que Française, je vais dire « il n'y a pas le feu au lac ». Je vais accentuer sur « lac ». D'accord? Ici. Je vais vous le mettre ici. il n'y a pas le feu au lac. Donc ça, c'est la proéminence sur la dernière syllabe. Il n'y a pas le feu au lac. Mais si vous êtes suisse, vous allez dire... Hop, je vous note ça correctement. Suisse. Vous allez dire, il n'y a pas le feu au lac. Là, c'est, je fais exprès d'accentuer même avec la tête, mais vous allez dire, il n'y a pas le feu au lac. D'accord? Après, il y a toute une prononciation qui est un peu différente, mais c'est ça l'accentuation, la proéminence pénultième, c'est qu'on fait l'accent sur cette syllabe, sur l'avant-dernière. Donc, le français va vous dire, il n'y a pas le feu au lac. Et le suisse va vous dire, il n'y a pas le feu au lac. OK? Voilà. Donc c'est vraiment subtil. Le plus important, c'est de connaître ça. Les Suisses parlent plus lentement. C'est vraiment la grosse différence, ce qui fait aussi que si vous allez en voyage en Suisse, vous comprendrez mieux ce qu'ils disent quand ce sont des francophones que des Français. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ils ont aussi certains mots différents, mais ça, c'est un régionalisme normal selon où on habite, on a des habitudes différentes. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette vidéo, des questions pour qu'on puisse les voir? Il y a quelques petites choses que j'ai sautées parce que je voulais que ça avance. Mais c'était tout ça. Vous pouvez utiliser le chat si vous avez d'autres questions sur la vidéo. Il y en a d'autres et je voulais préciser pour bien être sûr qu'on se comprend que c'est une satire d'une certaine façon. Il fait des blagues sur les Suisses, mais c'est une émission qui est produite par les Suisses. D'accord? C'est pas une vidéo faite juste par une chaîne française qui se moque des Suisses. Elle met en avant des choses qui sont globalement vraies ou des a priori, des clichés sur les Suisses qui l'expliquent. Et c'est produit par une chaîne suisse, même si l'auteur est français. Pour la prochaine fois, j'aimerais que vous me résumiez la vidéo en 5 lignes. D'accord? Donc, à nouveau, je vous conseille fortement de soumettre les devoirs. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, mais ça vous permet de pratiquer. Et là, l'idée, c'est de faire un résumé. On ne va pas tout mettre. D'accord? Mais les choses qui vous ont marqué, vous. OK? Très bien. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat, donc on va avancer. Et pour une fois, j'ai un peu de temps pour corriger les devoirs. Je vais commencer par les questions parce que je vais être sûre de les adresser. Jody demande les faire part ou le faire part. How to use in singular versus plural. Alors, un faire part, c'est, comment on dit en anglais? C'est the papers that you sent, the invite that you sent for a birth or a wedding or a death. This kind of paper that you send for big news. Un faire-part. On dit envoyer un faire-part. Announcement for birth. Vous devez avoir un équivalent. C'est marrant, ça se trouve, il n'y a pas d'équivalent. Faire part. Ah, c'est marrant. Ouais, donc effectivement, c'est announcement, mais vous n'avez pas l'équivalent. Parce qu'en fait, le faire part, c'est vraiment le papier. D'accord? C'est vraiment le papier. Donc, par exemple, for a birth, pour une naissance, nous, on avait envoyé des faire-part pour la naissance de notre fils. On peut envoyer des faire-part pour un mariage. On peut envoyer des faire-part pour un décès. C'est vraiment le papier, qui est souvent un carton ou une carte, qui est ça. Après, on peut envoyer des mails, mais en général, on dit que le faire-part, c'est plutôt le papier, le carton, la carte qui est envoyée. Alors, les faire-part ou le faire-part? Alors là, en fait, ce que je veux mettre en avant de Jody, c'est que je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on ne sait jamais. Donc en général, on va l'écrire, on va le regarder sur Google. D'accord? Voilà, je vois notice aussi. In a newspaper, c'est notice. Voilà, vous avez, je ne vois pas d'équivalent exact sur, sur World Reference. Parce qu'en fait, on peut dire you can make an announcement for lunch. Okay? It's lunchtime, I'm going to make an announcement so everybody can come with me to the restaurant. Mais en fait, en français, un faire part, c'est uniquement ça. On ne peut pas dire je vais faire part quelque chose. Curtis, j'ai vu ta question sur le journal. Je veux terminer sur le pluriel. Faire part au pluriel. Donc voilà, typiquement, j'irai là et je regarderai. Donc ça, il y a écrit sur le Larousse, par exemple, nom masculin invariable. Voilà. Donc on dit un faire part, des faire part. Donc c'est toujours, c'est invariable. Faire part est un mot, est un nom même, invariable. D'accord? Et ça, c'est vraiment le genre de choses que les Français savent jamais. Et c'est normal. Donc je voulais vous montrer que j'utilise Google juste pour voir comment on l'écrit. Faire part est un nom invariable. Curtis dit un faire part dans un journal pour la. Alors attention, nuisance, c'est pas positif, c'est naissance. Donc, je pense que oui. Publier faire part dans un journal. Ouais, en général, on dit avis de décès plutôt. Ou avis de naissance. Ouais, en général, on appelle ça un avis de décès. Est-ce que pour la naissance, il y a quelque chose? Oui, apparemment, on peut dire faire part de naissance pour un journal aussi. Voilà. Je vais le mettre ici, comme ça on a tout le vocabulaire. Voilà, là, vous avez tout le vocabulaire de ce genre de choses. Avis de décès, de naissance. Voilà, comme je vous disais, on peut dire un avis de naissance aussi pour ce genre de choses. OK. Curtis dit, mon autocorrect m'aide avec les mots. Oui, moi aussi. Enfin, surtout en anglais, mais en français, des fois aussi. Et Google est de plus en plus fort pour corriger. C'est impressionnant. Et pour reprendre ce que disait Jody, donc pas de question, mais Suisse et David Castello-Lopez me font penser à Paul Taylor. C'était très amusant. Super. Donc, je voulais reprendre ça parce que ça peut vous intéresser. Donc, Paul Taylor, c'est un humoriste britannique. D'ailleurs, je vais le voir sur scène dans 2 semaines, dans 1 semaine. C'est mon cadeau d'anniversaire. On va le voir sur scène avec une amie. Et donc, c'est un humoriste britannique qui a fait pas mal de choses sur YouTube. Voilà. Voilà, je vous mets ça parce que c'est intéressant. Hop. C'est son spectacle franglais, ça s'appelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle très bien français. Évidemment, il parle très bien anglais. Et donc, son spectacle est bilingue et ça vous permet de pratiquer. Et par contre, ça, c'est quelque chose dont il parle sur scène. Et je voulais vraiment vous le montrer que. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il a vécu en France quand il était enfant, autour de 5 ans. Et en fait, ça fait qu'il a un français, une prononciation du français parfaite. Mais il ne connaît pas le français parfaitement. Donc, il manque de vocabulaire, il y a certaines expressions qui ne marchent pas. Et comme il parle avec un accent parfait, il y a des gens qui croient qu'il est stupide. Et il a raconté qu'il allait dans un magasin de bricolage et il ne connaissait pas le mot carrelage. Le carrelage, c'est ce qu'on met sur le sol, souvent dans les cuisines. C'est des carreaux, voilà, qu'on met sur le sol. Il ne connaissait pas ce mot, mais comme il parle français parfaitement, le vendeur a cru qu'il était stupide parce qu'il ne connaissait pas le carrelage, alors qu'il y en a partout. Et pareil, s'il va à la boulangerie et qu'il se trompe sur l'article, donc un pain au chocolat, une pain au chocolat, donc il dit une pain au chocolat, la boulangère pense qu'il est stupide, alors qu'en fait, c'est juste qu'il ne connaît pas le français parfaitement. Donc pour lui, c'est un peu une malédiction, parce que les gens pensent qu'il est francophone de naissance, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça fait des choses très rigolotes, parce que je connais personne dans son cas, et l'entendre sur scène, j'ai trouvé ça très drôle. Il y avait une question sur la différence entre car et parce que. Alors, en gros, car et parce que c'est la même chose, d'accord? En gros, pour la plupart des utilisations, ça donne une cause. Par exemple, je mange un éclair parce que j'ai faim. On peut dire, je mange un éclair car j'ai faim. Mais, car, normalement, c'est utilisé pour une justification et c'est surtout la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est plutôt utilisé à l'écrit. À l'oral, on n'utilise quasiment pas car, on utilise parce que. Moi, je vais dire, je mange un éclair parce que j'ai faim. Ça, c'est toujours à l'oral. À l'oral. Et car, on va l'utiliser à l'écrit. D'accord? Là, on parle, ce qui est très important, c'est qu'on parle d'usage. D'accord? Ce n'est pas truth or wrong. D'accord? C'est la façon dont on les utilise. Pourquoi? Et aussi, quand on veut répondre à la question pourquoi, il faut répondre parce que. Pourquoi tu manges un éclair? Parce que j'ai faim. D'accord? Après, il y a des subtilités que même moi, je ne comprends pas. Donc, je vous ai mis un lien en dessous vers une ressource québécoise, parce que les Québécois sont toujours les meilleurs pour expliquer le français, mais eux-mêmes disent que c'est difficile. D'accord? Donc, le plus important, c'est de se souvenir que parce que égale car, on répond à pourquoi avec parce que, et que car est surtout utilisé à l'écrit. Si vous savez tout ça, vous avez 99%. 99% du temps, vous avez raison. D'accord? Alors, Marie demande, c'est de la dynamique. Je l'avais noté pour être sûre de ne pas l'oublier. Et une question sur haute voix. Est-ce qu'il y a une différence de prononciation entre le français parlé en conversation et le français lu à haute voix? J'ai écouté Le Petit Prince sur YouTube, lu par un acteur français. J'ai remarqué qu'il a fait beaucoup de liaisons entre les mots que je n'aurais pas fait. Merci. La réponse est oui, et la différence est énorme. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent je lis le français très bien, mais qui ne sont pas capables de le parler ou de le comprendre dans des choses du quotidien. Et c'est pour ça que aussi comme une française existe et je vous tanne avec ça, c'est parce que le fait de lire le français ne vous donne pas un niveau de français, parce que c'est beaucoup plus facile de lire que de comprendre ou de parler. Donc, en fait, quand on va lire du français écrit, on va utiliser des mots qui n'existent pas dans le français parlé, on va utiliser des structures de grammaire qui n'existent pas, des conjugaisons qui sont très peu utilisées, des temps qui ne sont quasiment pas utilisés. Par exemple, typiquement, si on lit le français écrit, on va utiliser car, alors qu'en français parlé, on ne l'utilise pas. Je pense que dans beaucoup de langues, c'est le cas. En français, c'est particulièrement le cas parce qu'à l'oral, on va couper des lettres, couper des mots, pardon. On va utiliser du vocabulaire qu'on n'utilise pas à l'écrit. Et donc, Marie parle aussi des liaisons. Oui, alors ça, c'est typique des certaines lectures où on va faire plus de liaisons pour avoir un français qui a l'air plus élégant, mais qui ne l'est pas forcément. D'accord? Et d'ailleurs, c'est toujours une blague de faire trop de liaisons parce que ça donne un air, de quelqu'un qui en fait trop. You're doing too much, you're overdoing it when you're doing too much liaison. So the answer is yes, it's very different. When you're reading French that is written, it's completely different to speaking French. So this is why learning spoken French is so, so, so essential. Voilà. Donc oui. Alors je vais revenir sur les devoirs maintenant que j'ai répondu aux questions et je veux commencer par Beth parce que Beth c'était son premier salon la dernière fois et je suis très contente de l'avoir avec nous. Alors, le dernier salon était mes premiers salons et ceux ici et mes premiers devoirs à cause de ça. Je suis un peu peur et j'ai aucune idée de écrit, mais je vais essayer d'écrire quelque chose plus ou moins compréhensif. Alors, Beth, je vois que tu as un niveau, on peut dire, débutant avancé. Donc, c'est très bien ce que tu as fait. On va regarder ensemble un petit peu des devoirs. Ce que je te conseille, et ça c'est le cas pour tous les élèves qui se retrouvent dans ce que Beth écrit, c'est de faire des phrases plus courtes, d'accord ? C'est quelque chose que je dis toujours aux élèves avec un niveau comme Beth. Le plus important, c'est d'écrire quelque chose de correct, d'accord ? Même si c'est court. Donc, il vaut mieux faire des phrases courtes qui fonctionnent les unes après les autres. Comme ça, on a le temps de respirer, de réfléchir à ce qu'on a écrit et on passe à la phrase suivante, d'accord ? Donc, ça, c'est important. J'ai enregistré un podcast, j'étais invitée dans un podcast, pour ceux qui connaissent, c'est Fluent in 3 Months, par Benny, et je disais que ce que j'enseignais à mes élèves, c'est surtout « You can be right in French, whatever your level ». Ça veut dire que vous soyez très avancé ou débutant, vous pouvez faire des choses qui sont correctes, c'est juste qu'il faut savoir vraiment prendre son temps. Donc, le dernier salon était mes premiers salons. Donc, le premier salon était mon premier salon. Le dernier salon était mon premier. On va même enlever ça. Le dernier salon était mon premier. Et ce ici est mes premiers devoirs. Et ceci et ce sont donc mes premiers devoirs. Donc, j'ai enlevé le « à cause de ça », j'ai mis un « donc » et ça nous permet de fermer la phrase. Le dernier salon était mon premier et ce sont donc mes premiers devoirs. Ici, on pourrait dire « c'est donc mes premiers devoirs », on va le dire en français parlé. Mais ici, comme c'est à l'écrit et que je veux quelque chose de bien structuré pour Beth, je vais mettre ce son parce que ici, c'est du pluriel. D'accord ? Le dernier salon était mon premier et ce sont mes premiers devoirs. Je suis donc un peu peur. Alors attention, on dit avoir peur. Pour tous ceux qui veulent noter, on ne dit pas être peur, on dit avoir peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur et j'ai aucune idée. Alors ici, je vais mettre la négation parce que ça permet de donner juste une structure de référence pour Beth. Le dernier salon était mon premier, ce sont donc mes premiers devoirs. J'ai un peu peur et je n'ai aucune idée. Aucune idée de que d'écrit alors de ce que je vais écrire, d'accord, de ce que je vais écrire. Et à nouveau, vous voyez que il y avait une phrase qui faisait 3 ou 4 lignes et j'ai coupé en 3 phrases. J'ai un peu peur, I'm a little bit afraid, et je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Là, le « mais » est correct, hein, il est très bien, mais je vais raccourcir pour avoir une phrase qui fonctionne toute seule. Je vais essayer d'écrire quelque chose de plus ou moins compréhensif, d'accord ? Alors, je vais m'arrêter là pour le devoir de Beth, parce qu'il y a pas mal de fautes à corriger, je voulais vraiment vous montrer ça. Souvenez-vous, il vaut mieux faire des phrases courtes et correctes que des longues phrases fausses. Pourquoi ? Ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais si vous faites beaucoup de fautes, vous allez réfléchir trop et ça vous empêche de parler. Et quand vous êtes dans une conversation, que vous écoutez ou que vous écoutez un podcast dans la voiture, si vous êtes perdu, vous perdez le fil de ce qui est dit, d'accord ? On dit perdre le fil. On peut dire « lose the plot » en anglais. « you lose the plot ». En français, c'est « lose the thread ». On perd le fil, d'accord ? Le dernier salon était mon premier et ce sont donc mes premiers devoirs. Point. J'ai un peu peur et je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Point. Je vais essayer d'écrire quelque chose de plus ou moins compréhensif. D'accord ? Là, on a quelque chose qui est construit, qui est clair. Ici, on a... Deux, on pourrait même séparer, on peut dire « j'ai un peu peur », point, « je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire ». Mais comme c'est juste un « et », ici j'ai laissé, comme ça fait une phrase quand même simple, d'accord ? Ça c'est important Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Faites des phrases courtes et des phrases justes plutôt que de vous perdre dans des choses compliquées. Voilà. Ici, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux corriger un autre truc, mais c'est très bien ton utilisation de « et des bananes », une centaine. Voilà, ça, c'est vraiment très bien. Je vois que tu as essayé d'utiliser les termes de la dernière fois et ça, c'est vraiment super. Alors, baisse. Et en général, je prends l'ordre dans lequel vous les avez soumis. Alors, je vais faire une phrase de Lynn. Je ne peux jamais reproduire les recettes de ma grand-mère parce qu'elle faisait toujours la popote à la louche. Alors, tout est correct. C'est très bien. Il y a juste le à la louche à la fin. Je vois ce que tu veux dire, mais je n'ai pas réussi à retrouver ce qu'il faut comme expression. Je ne peux jamais. Parce que ma grand-mère faisait pareil et c'est impossible de cuisiner comme elle. Ma mère fait pareil, du coup c'est impossible de cuisiner comme elle parce qu'elle ne peut pas me donner de mesure. Alors par contre, il y a quelque chose que je voulais évoquer ici. Quand tu dis je ne peux jamais, on va plutôt dire je n'arrive jamais. Je n'arrive jamais. Je n'arrive jamais à. Ça rend, on a une idée de répétition. Parce que si tu dis je ne peux jamais, il y a juste une idée d'échec. Mais il n'y a pas une idée d'essayer tout le temps, tout le temps. Par exemple, on va dire je ne peux jamais me garer en bas de chez toi. I can't never park in front of your house, d'accord, of your home or your building or whatever. Et il y a cette idée de d'absolu, d'accord, je ne peux jamais me garer en bas de chez toi. Mais si on dit je n'arrive jamais, ça veut dire qu'on essaye, on essaye, on essaye, et on va le faire en fait, d'accord? Si on dit, c'est pas la même chose. Quand on dit arriver, il y a vraiment, on t'imagine en train d'essayer avec la casserole à mettre les choses et tout et avoir un résultat et que ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais si tu dis je ne peux jamais, c'est juste, c'est un fait. On n'imagine pas que tu essayes encore. Donc je n'arrive jamais, I never succeed, à reproduire les recettes de ma grand-mère parce qu'elle les faisait toujours. Alors en fait, à la louche, c'est faux, mais j'arrive pas à me souvenir de ce qu'il faut. J'ai envie de dire au pif, mais c'est faux. On pourrait dire au pif, mais c'est pas ça qu'il faut. Mais à la louche, ça, c'est pas ça. Parce que à la louche, c'est une approximation de chiffres. Donc, par exemple, tu pourrais dire à la louche, je vais mettre 1 kilo de bananes. D'accord? Mais là, il y a un truc qui ne va pas. Mais je suis désolée, je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Et sinon, c'était très bien. Sur la forme, c'était super bien. Très bien structuré, il n'y a aucune faute, c'est très bien. Il nous faudra 50 litres d'essence à vue de nez pour notre trajet de Paris à Lyon demain. Ça, c'est super. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin pour avoir une authenticité, il nous faudra 50 litres d'essence à vue de nez pour notre. Tu peux même mettre Paris-Lyon. Voilà. Notre Paris-Lyon demain. D'accord? C'est exactement comme en anglais, New York, Washington. Tu mets deux villes l'une à côté de l'autre et ça te fait un trajet. Mais c'était très bien. Ça, c'était super. C'est juste pour affiner un petit peu. Alors, par contre, à chaque jour en juillet, ma sœur récolte 300 grammes et des poussières de framboises de son jardin. Ça, c'est très bien. Par contre, chaque jour en juillet, ça ne va pas. Ce que tu veux dire, c'est every day in June. Tous les jours. On dit tous les jours en juillet. Tous les jours en juillet, ma sœur récolte 300 grammes et des poussières de framboises de son jardin. Voilà. C'était la seule chose où c'était faux et je voulais vraiment te montrer comment corriger ça. Sinon, le reste, c'était bien et surtout sur la forme, c'est structuré, les mots sont corrects, il n'y a aucune faute, on est bien. Allez, je vais corriger vite fait celui de Jodie parce qu'elle avait soumis quelque chose. Combien d'étudiants y seront chez toi? Alors, on dit seront chez toi. Combien d'étudiants seront chez toi? Environ, attention, environ, ça c'est important, c'est invariable. Donc, il n'y a jamais, jamais, jamais de S, même s'il y en a plusieurs. D'accord? Combien d'étudiants seront chez toi? Environ 5 personnes. Alors, je vais faire une quiche. À le parc, attention, A plus le égale O. D'accord? A plus le parc égale au parc. Je vais vous mettre un accent même. A plus la forêt égale à la forêt. D'accord? Ça, c'est un truc à retenir. À la forêt. Voilà. Donc, in the park, au parc, in the forest, à la forêt, dans la forêt. Environ 5 personnes. Alors, je vais faire une quiche, ça c'est très bien. Donc, au parc, j'ai vu à la louche 100 merles, ça c'est très bien. Et aussi effrayant, une quarantaine de vautours. Je vais juste changer ça. Et une quarantaine de vautours, tout aussi effrayant. Au parc, j'ai vu à la louche 100 merles et une quarantaine de vautours, tout aussi effrayant. Voilà. Ok, donc j'ai corrigé j'ai corrigé les devoirs et c'était très bien. Merci de les avoir soumis. J'ai répondu aux questions. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et après, on va se quitter. On se voit lundi, me semble. Parce que donc aujourd'hui, c'était la séance je crois que c'est le 12 juillet, quelque chose comme ça. Et je préférais le mettre maintenant que de reporter à plus tard. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui avant de se quitter? Il n'y a pas le feu au lac, car et parce que environ qui est invariable, tout à fait. Je comprends plus et plus à chaque fois. C'est très bien. Genre égale par exemple, tout à fait. Donc, je note, il y avait perdre le fil, il y avait genre. Environ, donc tout à fait. Donc, environ invariable, d'accord? Car et parce que. Alors, je ne vous ai pas très bien expliqué parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment subtil. C'est plus intéressant de se souvenir que car est à l'écrit et que parce que répond à pourquoi. D'accord? Super. Très bien. Mais c'est super. C'est louche, c'est chelou. Ouais, tout à fait. Donc, c'est louche, vous pouvez l'utiliser dans le même sens. Hein. Par exemple, c'est louche. Qu'ils viennent me voir à 9h du matin. D'accord ? C'est louche qu'ils viennent me voir à 9h du matin. Laisse tomber, laisse béton. Ouais, très bien. Donc, laissez tomber. Qu'est-ce qu'on a ? Un faire-part. Je vais vous mettre un faire-part parce que, comme ça, vous vous souvenez que c'est un nom. Super. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. C'était super de vous voir aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire le salon. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour certains, une bonne soirée, pour ceux dont c'est le cas. Et une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. On se voit donc lundi, il me semble. Et c'est toujours un grand plaisir de vous voir. Pour ceux qui sont dans le 30-Day Challenge, félicitations. Pour ceux qui veulent rejoindre le 30-Day Challenge, vous avez jusqu'à vendredi. Parce qu'en général, le week-end, on vérifie que tout le monde est là. Il y a toujours des gens qui ont des questions. Et comme ça, ça nous permet de faire une séance de welcome party mercredi prochain. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit pour certains. Et on se voit bientôt. Salut !